6h45 sur France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Et bonjour Jacques Millet.
Vous allez nous parler des réformes en Arabie Saoudite avec votre invité et qui est ici même et que je salue.
Merci.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et on la salue aussi. Bonjour Fatia Dazieni.
Bonjour.
Pour parler de ces réformes saoudiennes avec les femmes autorisées à créer leur entreprise sans tuteur, c'est la dernière annonce du ministère du Commerce et de l'Investissement. Un des nombreux exemples donc de ces réformes qui se poursuivent au pas de course en Arabie Saoudite, au pas de course, mais avec une méthode remarquable. C'est ce que vous expliquez donc Fatia Dazieni, chercheuse spécialiste des monarchies du Golfe, enseignante à l'IRSEM, auteur de l'Arabie Saoudite en son question. Et auteur de cet article sur Mohamed Ben Salman, la promesse d'une nouvelle ère dans la revue Questions internationales de janvier-février. Alors les réformes justement, on en a vu la partie spectaculaire avec les arrestations de princes de novembre. Mais ce que vous montrez, c'est qu'avant cette purge brutale, le prince héritier de 32 ans MBS, Mohamed Ben Salman, s'est lancé dans une reprise en main méthodique du pays avec deux grands traits, on pourrait dire, l'ouverture sociale d'un côté et le resserrement hiérarchique de l'autre. Alors, il y a bien sûr une nécessité économique, on pourra en reparler, mais surtout politique, sortir l'État de sa dépendance au réseau de pouvoir historique, quitte à être autoritaire. Il y a pas mal d'atouts dans cette réforme, notamment un allié, le père de MBS, le roi Salman, toujours gardien des lieux saints. Quelques risques aussi, un prince pressé, dit-on, qui ébranle l'État saoudien, mais le pari est ambitieux, ni plus ni moins, dites-vous, que créer une nouvelle nation saoudienne. Alors, entre l'ouverture et le resserrement du pouvoir, certains voient un cul-de-sac, une ouverture qui ne peut aller qu'au prix d'un resserrement. Irait-on jusqu'à une disparition du régime monarchique? C'est à voir aussi. En tout cas, une des formes les plus remarquables de cette ouverture sociale, je le disais avec cette annonce du ministère du Commerce, Fatia Dazieni, c'est une ouverture sociale par petites touches, notamment concernant les femmes.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que la stratégie de ce prince héritier est aujourd'hui beaucoup plus claire. Il injecte comme ça des mesures libérales sur le plan social pour satisfaire son socle qui lui est très acquis, à savoir la jeunesse, qui est massivement acquise à ce jeune prince, les femmes, bien sûr. Parce que pour la première fois, c'est vrai qu'un prince qui a l'âge un petit peu de la société saoudienne, puisque 60% de moins de 30 ans et 75% de moins de 45 ans. Donc c'est une société extrêmement jeune qui est lasse, si vous voulez, de ce contrôle religieux, de cet étouffement. Donc il a bien compris que, à défaut d'être reçu cordialement au sein de sa famille, parce qu'il est très contesté au sein du cercle familial, on considère que c'était pas son tour n'était pas venu, eh bien lui a décidé, si vous voulez, de tout miser sur le fait que la jeunesse, il s'est rendu, si vous voulez, totalement irréversible. Et c'est là-dessus qu'il joue pour consolider sa légitimité. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, il joue sur des mesures libérales sociales, mais également sur une pratique ultra-autoritaire du pouvoir. C'est lui, il concentre tous les pouvoirs entre ses mains, et c'est tout à fait inédit au sein de cette monarchie saoudienne, depuis qu'elle a été créée, en tout cas, par le roi fondateur, le roi Ibn Saoud, en 1932, et qu'il l'a laissé à tous ses fils lorsqu'il est décédé en 1953. Mmh. Donc son père, le roi Salman, effectivement, organise ce pouvoir ultra-vertical, et au passage, élimine tous les princes seniors, parce que la seniorité, c'était quand même l'usage. C'est-à-dire, il a.
Ce qu'on a vu lors des purges de novembre dernier, avec une soixantaine, c'est ça, de princes arrêtés.
Non, un peu une dizaine.
Une dizaine.
Non, il a d'abord évincé son frère cadet qui devait arriver derrière lui dans l'ordre de succession, et ensuite il a éliminé son neveu qu'il avait lui-même nommé prince héritier pour désigner son fils Mohammed, qu'il estime comme le plus capable et le plus apte à transformer le royaume et à en faire une grande puissance du 21e siècle.
Alors justement, on va passer sur les nécessités économiques, puisqu'on en avait déjà parlé de réformes de fonds, mais sortir de la dépendance au pétrole, 90% encore des revenus, c'est très clair. Vous avez expliqué aussi la correspondance entre, disons, la structure sociale, la puissance de la jeunesse et la nécessité de la sortir, elle, de la dépendance à l'emploi public, par exemple. Alors, le plus intéressant, par contre, c'est cette réforme de l'État saoudien. Justement, on a beaucoup parlé d'un État qui était caractérisé par son horizontalité et que lui, ce prince pressé, voudrait le transformer en un État vertical. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait référence à la structure clanique.
En fait, c'est son père, c'est le roi Salman qui a fait que il a fait une rupture stratégique par rapport à la monarchie dynastique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire monarchie familiale, où les princes les plus influents se partageaient le pouvoir. Si vous voulez, autrefois, le prince sultan qui a régné, on peut dire quasi régné sur le ministère de la Défense pendant 50 ans, administrait son ministère comme si c'était un micro-État. Le ministère de l'Intérieur, même chose. Donc c'est ces réseaux, si vous voulez, c'est cet ancien régime que le prince héritier, une fois arrivé au pouvoir, de manière assez fulgurante, a décidé de briser. Alors ça ne veut pas dire qu'il se débarrasse comme ça d'un coup de balai de sa famille. Il est bien obligé de renégocier au sein de sa famille et il est en train, si vous voulez, de recomposer avec des princes de la nouvelle génération, des princes de son âge. Mais évidemment, il sera bien obligé, et là son père est là aussi pour comme garant, parce que son père est extrêmement légitime au sein de la famille royale.
C'est ce qu'il faut souligner, effectivement.
C'est un point très fort. Donc, quand on dit que le roi Salman est juste là pour signer les paraffeurs, c'est totalement faux.
C'est un véritable allié.
Ah bah c'est celui qui, c'est pour moi le garant aujourd'hui de tout ce que peut faire son fils. C'est-à-dire que le prince héritier, si son père n'avait pas été là pour le soutenir et aller dans son sens, parce qu'ils sont tout à fait d'accord sur les réformes, il n'aurait jamais pu réaliser tout ce qu'il est en train de réaliser.
Oui, il a eu un rôle très important depuis 2015, que vous montrez aussi, mais il y a autre chose de très intéressant aussi dans ces réformes, c'est que le terrain a été en quelque sorte préparé, et dès le roi Salman, en fait, avec une multiplication des institutions nouvelles. Ça, c'est assez fascinant, j'en ai compté, je ne sais plus, 4, 5, 6...
Oh, il y en a beaucoup plus. C'est vrai qu'il faudrait les comptabiliser. En fait, ce sont des nouvelles autorités publiques qui sont gérées par des gens qui viennent souvent du secteur privé. Et là, effectivement, c'est une gouvernance qui est un petit peu copiée sur le modèle de Dubaï et d'Abu Dhabi, où on contourne, si vous voulez, la lourdeur bureaucratique des ministères qui sont constitués de personnes qui ont été pistonnées. Si vous voulez, c'est souvent, et la compétence a été sacrifiée. Donc là, il est en train de contourner cela pour essayer d'instituer des mesures de régulation contournant donc cette lourdeur bureaucratique qui est le principal ennemi du prince Ben Salman.
Quand on dit qu'il est technocratique, ça vous semble juste ou il est simplement en train de faire une sorte de normalisation politique ou de rendre plus efficace le fonctionnement?
Ah ben lui, son idéal, c'est de faire du royaume un royaume basé sur la méritocratie, le goût de l'effort, etc. Toutes ces valeurs qui ont été complètement occultées jusqu'à présent, Alors c'est pour ça que beaucoup estiment que ce sont des réformes qui ne pourront jamais aboutir, etc. Mais quand je vais sur le terrain, très honnêtement, et que j'ai des entretiens avec des amis proches depuis longtemps, ou des jeunes, etc., on voit qu'il y a une nouvelle confiance qui n'existait pas avant. Donc, ils y croient. Et beaucoup ont envie de faire des efforts, parce que pour la première fois, cette jeunesse est prise au sérieux. C'est-à-dire que ça devient un vrai acteur, alors qu'auparavant, elle était complètement assistée, elle n'existait pas.
Et avec une certaine prudence, d'ailleurs, comme vous le montrez encore une fois dans l'article, avec une suppression des subventions au salaire public, et puis finalement une annulation de cette suppression
Parce que la grogne a été très forte.
Voilà. Et puis, toute dernière chose, alors, dans ce contexte, quel est le sens de ces purges qu'on a vues à la fin de l'année dernière? Pourquoi une accélération comme ça? Est-ce que c'est pour contrôler les derniers secteurs, ces derniers fiefs qui étaient incontrôlables finalement, ces dix princes?
Non, c'est très clairement pour en finir avec un ancien régime qui était basé sur effectivement une corruption systémique qui était la norme, puisque ces ministères, via leur réseau de clientèle, etc., administraient de manière totalement autonome leurs affaires. et pouvait effectivement... c'est comme ça que, si vous voulez, vous avez eu des milieux d'affaires, des hommes d'affaires qui sont devenus aussi puissants que certains princes. Donc c'est vraiment ce système. Alors, est-ce que ça veut dire que on va avoir un système totalement transparent, etc. Une chose est sûre, c'est que en faisant cette purge, il a ouvertement et publiquement reconnu que le royaume fonctionnait sur une corruption systémique et endémique.
Et on comprend en tout cas que ce n'est pas la fin de la monarchie. On en reparlera très prochainement, j'espère. Merci d'être venue ce matin, en tout cas, Fatia Dazieni, chercheuse spécialiste des monarchies du Golfe, enseignante à l'IRSEM, auteure de l'Arabie Saoudite en sans question. Je renvoie bien sûr les auditeurs à notre partenariat, la revue Questions internationales, numéro de janvier-février, qui porte sur l'Arabie Saoudite, informations et vidéos sur le site de France Culture et le fil Twitter des enjeux internationaux. Et demain, eh bien, comme vous, Guillaume Merner, aujourd'hui, nous parlerons du Kosovo, de son histoire, de son avenir.